Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Céline Guéribi. En 1952, le mathématicien et philosophe gallois Bertrand Russell écrit un article intitulé « Y a-t-il un Dieu ?» dans lequel il expose l'absurdité consistant à croire à quelque chose sous prétexte que sa non-existence est impossible à prouver. Et c'est l'idée qu'il trouve pour illustrer son propos qui tient lieu de gourmandise du jour. Russell imagine une petite théière de porcelaine en orbite autour du Soleil, indétectable par nos télescopes, c'est-à-dire dont l'existence, tout comme la non-existence, serait irréfutable. Je vous invite à lire sa démonstration via le lien que nous mettrons sur le site de l'émission. Réalisateur, scénariste, auteur, buveur, inventeur et comédien, notre apothicaire de l'âme naît à l'île Maurice, rêve de devenir prêtre ou footballeur. Puis, il fait une école de commerce à Marseille. Mélomane exalté, il est un temps comptable dans une papeterie industrielle à Cagnes-sur-Mer, puis s'installe à Paris avec le désir de travailler dans une maison de disques. Le désir reste inassouvi, mais notre homme débute à la télévision en collaborant à diverses émissions comme Avis de Recherche, Surprise Surprise, Le Plein de Super ou Le Top 50. En 96, il intègre l'équipe de la matinale d'Arthur sur Europe 2. En 98, il se jette dans un verre de pastis géant au Festival de Cannes et manque de s'y noyer. Il est sauvé par celui avec lequel il forme désormais un tandem inséparable, Benoît de Lépine. Ensemble, ils réalisent une œuvre cinématographique déjantée, corrosive et surréaliste et pointent l'absurdité du monde via l'émission culte de Canal, Groland. Leur regard aussi tendre qu'irrévérencieux dévoile la poésie cachée dans la laideur planétaire et leur curiosité pour l'humanité inverse les valeurs courantes. La folie apparaît comme la seule manière saine d'habiter l'univers. Bonjour Gustave Carverne.
Jamais vu un aussi beau portrait, aussi concis, aussi finement observé.
Écoutez, je suis flattée. La première question de cette émission, c'est toujours la même, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? Et je pense qu'on va en avoir pour notre argent, Gustave Carverne, parce que déjà, quand je pense à vos films avec Delépine, il y a beaucoup de suicides dedans, ou de tentatives de suicide.
Oui, c'est vrai en plus.
Ben oui.
On s'est dit ça il n'y a pas longtemps, effectivement, parce que on vient de terminer un film qui s'appelle Effacer l'historique. Là, on a terminé il y a 3 semaines, je crois. Et Michel Houellebecq est revenu nous faire une petite apparition dans... Il était déjà venu et déjà fait un film entier d'ailleurs sur le suicide.
Near Death Experience,
voilà.
Très beau film.
Et là, il se re-suicide dans ce film-là, mais on se rappelait même plus de l'ancien film. Mais curieusement, oui, effectivement, on s'est dit à cette occasion que le suicide était une idée qui revient assez souvent.
Alors vous, Gustave Carverne, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Avec le suicide ? Non, on a un rapport très étroit, mais c'est même limite psychanalytique. Enfin, je veux dire, je dis pas que j'ai jamais été vraiment en grosse dépression, mais je flirte toujours avec une espèce d'un état assez dépressif. Et la mélancolie, justement, j'aime bien m'y plonger. Enfin, c'est carrément masochiste aussi, c'est-à-dire que Par exemple, je préfère les films tristes alors que je travaille dans l'humour. Je préfère aller voir des films profonds et tristes que des comédies, par exemple.
Vous ne la fuyez pas, alors, la mélancolie ?
Ah non, au contraire. Non, pour moi, c'est un espèce de refuge. Et même quand je suis trop heureux, je me dis c'est louche, quoi. Donc je repars vite dans le sens inverse. Et je sais pas. Alors, évidemment, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Hein, mais je suis allé voir quelques thérapeutes, mais je suis jamais tombé sur un bon gars donc j'ai vite laissé tomber. Et puis c'est par moi-même que j'essaie de résoudre certains problèmes. Et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi je suis aussi mélancolique ? Pourquoi je me dis peut-être que je suis né dans une île. Alors c'est vrai que les Iliens, c'est assez spécial comme vie. Je suis né à l'île Maurice. Et il y a ce côté, tout le monde se connaît, on tourne en rond, la mer, enfin, je sais pas si ça vient de là, je pense que c'est aussi de famille, je pense que c'est dans les gènes quand même pas mal, Donc voilà, donc je cherche depuis 57 ans d'où me vient ce tempérament, et j'ai pas vraiment de questions, et à la limite je m'en fous un peu, parce qu'à 57 ans c'est vrai que bon, c'est un peu trop tard pour... Et puis comme je me sens en adéquation avec cette... je sais pas, de toute façon je peux pas être heureux vraiment, parce que je vois pas pourquoi on serait heureux avec tous les problèmes qu'il y a. Et puis nous, on travaille dans l'humour, mais comme vous le disiez si bien, c'est de l'humour. Enfin, je veux dire, on essaie de dénoncer plein de choses. Donc, on lit le journal tous les jours. On s'aperçoit que, évidemment, que ça regorge de mauvaises nouvelles et de tromperies, de duperies sur plein de choses. Donc, je vois pas comment, en travaillant dans l'humour, enfin dans l'humour noir en plus, on peut être heureux. C'est pas possible. Ou alors faut être totalement con. Mais voilà. Donc c'est en étant lucide, en étant vraiment très lucide sur la situation, on ne peut être que relativement heureux. C'est-à-dire que je suis pas non plus hyper malheureux, mais je suis assez lucide sur la situation du monde et ma propre situation. Donc, mais si je peux continuer.
Allez-y, on a encore 5 heures devant nous.
Ouais, non, voilà, mais c'est juste pour dire que j'ai quand même eu un destin, vous l'avez rappelé, quand même assez hallucinant. Souvent, quand je me retourne sur ce que j'ai fait, je me dis même, mes enfants, ils pourront jamais vivre autant de choses que j'ai vécues. C'est-à-dire que quand on vient de nulle part et quand on a un parcours aussi sinueux pour arriver à, finalement, à faire des films tard, mais à la fois, c'est pas le parcours le plus rapide, mais à la fois c'est le parcours, je pense, le plus intéressant, parce que c'est en collectant les expériences dans tous les domaines et dans tous les milieux qu'on arrive à écrire des films, à balancer des trucs. Donc voilà, donc je regrette absolument pas ces difficultés ou ces méandres, mais voilà, enfin je suis très heureux de mon parcours. Donc voilà, ça, si je peux dire à titre personnel, c'est ce que je voulais dire, je suis très quand même assez, je suis très heureux quand même de ce que j'ai fait, quoi.
Je suis contente de l'entendre, Christophe Carverne.
Oui. C'est une introduction. Plus, je ne l'ai pas dit souvent, ça. Donc, ouais. Donc voilà, non, mais je peux le dire, quoi. C'est vrai. Quand on faisait ce film-là cet été avec Benoît, et qu'on avait la chance d'avoir une actrice comme Blanche Gardin, qu'on adore, qui a dit oui à notre film, et qui a dit non à tous les autres films, et qu'on était avec elle, et qu'on se retourne souvent sur notre parcours avec Benoît, parce qu'on a quasiment le même. Et qu'on se dit, putain, qu'est-ce qu'on a côtoyé comme dingue, que ce soit connu, pas connu, quelle vie de fou, quoi, en fait, c'est ça.
On va parler d'ailleurs des gens que vous avez dirigés, Gustave Carverne. J'annonce le sommaire aux auditeurs. Dans quelques instants, vous allez convoquer les frères Cohen, la philosophie grolandaise, Benoît Poulvord, Daniel Goussens, Brigitte Fontaine, les Rolling Stones, une girafe en feu et une télévision, juste après le titre, La mariée du groupe, film noir. We'll be right back. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Gustave Kervern.
That rug really tied the room together, did it not?
Fucking A.
This guy peed on it.
Donnie, please.
You know, this is the fucking guy. I could find this fucking Lebowski guy.
His name is Lebowski? That's your name, dude.
This is the guy who should compensate me for the fucking rug. His wife goes out and owes money all over town and they pee on my rug?
They pee on your fucking rug?
They peed on my fucking rug.
That's right, dude. They peed on your fucking rug.
1998, le culte The Big Lebowski des frères Cohen. On entend dans cet extrait l'obsession qui sera celle du héros pendant tout le film. On a uriné sur son tapis alors que celui-ci harmonisait la pièce. Gustave Kervern, ce héros, The Dude, par le remarquable Jeff Bridges, il pourrait être Grolandais.
Il est carrément Grolandais, c'est pour ça que j'adore ce film. C'est un condensé de Groland, mais c'est un personnage vraiment qu'on aurait rêvé à inventer, The Dude. Une espèce de baba cool sur qui tout glisse, tous les événements du monde. Et puis un côté assez enfantin, un gros picoleur aussi, qui se balade toujours avec son verre à la main. Mais il y a des gags d'anthologie, en fait, ce film. Parce que moi, j'aime pas trop revoir plusieurs fois les films, mais c'est un des rares films que je peux voir vraiment plusieurs fois avec toujours autant de plaisir, ce qui est quand même pas habituel.
Puis j'ai revu aussi plusieurs fois et on n'est jamais lassé. Je me suis aussi rendu compte que The Dude ne joue jamais au bowling pendant le film.
Ah oui,
il n'y a pas une seule scène où il joue au bowling.
Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ouais. Ouais, bah oui, bien vu.
Et l'autre spécificité du film, Gustave Kervern, c'est les dialogues. Les personnages n'expriment jamais leurs idées jusqu'au bout. Et là, je pense au grand soir avec cette scène surréaliste entre Poulvord et Dupontel qui parlent en même temps.
Ouais, bah ça dure très longtemps aussi, comme souvent chez nous, parce que comme on fait des plans séquences, on ne fait que ça, on fait jamais de chant contre chant ou très peu. C'est un des partis pris qu'on a eu depuis le début, c'est-à-dire que ce sont des plans fixes qui peuvent durer très très longtemps par moment. Et là, on avait dit à Benoît et à Albert Dupontel, allez-y, hein, vous avez deux thèmes chacun et c'est une bataille, quoi. Et il se trouve qu'on pensait que ça allait être Benoît Poulvord qui allait gagner, mais enfin. En toute honnêteté, c'est quand même Albert qui prend le dessus dans cette conversation. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des gens qui parlent en même temps au cinéma, parce que c'est ce qu'on n'aime pas en plus, c'est que dans le cinéma, normalement, chacun doit attendre que la réplique soit terminée avant de commencer. Et là, on a pris le parti justement de faire parler deux personnes en même temps. Donc ça donne une espèce de cacophonie absolue, mais c'est assez drôle avec une Brigitte Fontaine qui est au milieu de ça et qui regarde passer les balles. Enfin, je sais plus si c'est Brigitte ou Areski, mais enfin bon, bref.
Gustave Kervern, vous avez plusieurs réalisateurs fétiches. Il y a Coris Maki, il y a Blié, il y a Joël Seria. Et il paraît que vous habitiez à un moment en colocation avec Benoît Delépine et que tous les mardis, vous invitiez quelqu'un que vous vouliez rencontrer. Il y avait José Bové, mais il y avait aussi Piala. Et c'est Piala qui vous a poussé à faire du cinéma.
Oui, enfin, en partie, ouais, c'est vrai, mais... Et c'est surtout que, oui, on a eu la chance incroyable qu'il vienne, alors qu'il était très malade. Donc, on faisait ses repas du mardi, assez hallucinant, parce que à l'époque, on faisait vraiment la fête, et j'avoue que ça se terminait parfois dans des dingueries absolues, mais effectivement, il nous a dit, les gars, foncez, n'ayez pas peur, n'ayez peur de rien, et il avait un projet de film avec nous, enfin, avec un des personnages de l'émission de Groland qui s'appelle Francis Kuntz. Et voilà, enfin, et on l'a aussi mis dans un de nos sketchs totalement délirant, que c'était une série qui s'appelait Toc Toc Toc. Et donc il était dans le placard, c'était un petit truc un peu de boulevard, il y avait plusieurs personnages comme ça durait une minute. Et alors bien dans sa filmographie, il y a À nos amours et tout ça, et il y a son dernier truc, c'est Toc Toc Toc. Donc ça fait sur IMDb, ça fait un peu tâche, mais en tout cas il a eu l'humour et la gentillesse de venir faire l'imbécile avec nous, alors qu'il était quand même très malade.
Est-ce que vous continuez, Gustave Kervern, de demander aux acteurs et aux réalisateurs que vous croisez une liste de 10 films que vous visionnez systématiquement ?
Oui, c'est vrai, je demande... Enfin, j'ai une cinéphilie plutôt basique, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien découvrir des films, et comme je suis encore un des derniers qui achète des DVD...
Ah, c'est vous ?
Oui, c'est moi, ouais. Et donc, voilà, donc je demande... Effectivement, Albert m'a fait une liste, Gaspard Noé m'a fait une liste. Oui, je demande à... Parce qu'ils sont pas tous cinéphiles, mais ces deux-là le sont particulièrement, donc dès qu'il y a quelqu'un, effectivement, je demande, et je découvre des choses incroyables. Par exemple, Albert, il m'a fait découvrir un film qui s'appelle Seuil Cubain, en noir et blanc.
Un truc, avec un plan séquence inouï.
Ouais, trois plans séquences. Enfin, que beaucoup de plans séquences, mais effectivement, des plans séquences absolument extraordinaires. Donc, c'est. Moi, je refais ma cinéphilie comme ça à coup de DVD.
On n'entend pas God Save the Queen des Sex Pistols, mais God Save the President des producteurs de porc, soit le générique de l'émission Groland, diffusée depuis 92 sur Canal+, presque 27 ans d'existence.
Oui.
Gustave Quimverne, comme philosophie et religion consolatoire, vous avez choisi la philosophie grolandaise. Alors, j'ai lu que Benoît de Lépine l'a définie en trois mots, hédonisme, liberté et paresse. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous avez une autre définition?
Il y a plein de mots. Non, c'est pas mal, hein. C'est vrai, c'est une belle définition, mais non, mais c'est vrai, parce que ça fait donc, moi, ça fait pas 27 ans, mais ça doit faire, je sais plus, 23, 24 que j'y suis. Et on a la chance de faire cette émission depuis si longtemps et surtout d'avoir, je sais pas, enfin, à chaque fois qu'on se déplace, là, on a tourné à Arras, donc le dernier film. Il y a des régions qui sont plus grolandaises que d'autres. Là, on est tombé vraiment dans un fief grolandais absolu. Et les gens, mais sont, mais je sais pas, mais ce sont des trésors, en fait, les histoires des gens, les vies des gens, les gueules des gens. Plus particulièrement des Grolandais sont vraiment magnifiques, quoi. Enfin, ce sont des gens extraordinaires. Enfin, les gens qui regardent l'émission en général, c'est vraiment des gens qu'il faut absolument connaître parce que ce sont des bons vivants ou qui en général font des morts assez vite aussi. Mais en tout cas, voilà, non, il y a vraiment une, je sais pas, déjà un second degré, une façon de voir la vie, une façon de voir les choses qui n'appartient qu'à cette émission, parce qu'en fait nous on est chacun des auteurs de cette émission a eu un parcours de vie qui est spécial, quoi. On n'est pas du sérail, on n'est pas du, justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nos expériences, nos conneries qu'on a fait avant, on nourrit tout ça d'une espèce de simplicité aussi, d'une espèce d'humilité qui fait que c'est vraiment une émission très très à part.
J'ai essayé de chercher justement dans les archives grolandaises si vous parliez de la philosophie grolandaise. Alors je suis juste tombée sur le philosophe Bernard-Henri Siné, bien sûr. Et sinon, une minute de philosophie grolandaise et c'était des filles qui se caressaient les seins.
Oui, aussi, oui, ça peut être ça également, hein. Ça part un peu dans tous les sens. Hein,
mais cette légèreté, Gustave Quimverne, qu'il y a dans Groland, parce qu'en fait, vous traitez l'actualité, vous traitez parfois des sujets graves en faisant des pastiches avec de l'humour noir et de l'ironie. Mmh. Cette légèreté, vous arrivez à l'appliquer dans le réel ou pas du tout vraiment? Il y a une lourdeur dès qu'on sort de Groland.
On a fait quand même des soirées exceptionnelles, hein, où il y avait. La légèreté était vraiment là, mais qui côtoie vite la lourdeur, hein, à partir d'une certaine heure. Non, on est très, par exemple, avec Benoît, on adore notre boulot, quoi. On adore inventer des choses, on adore travailler, aussi bien que, en général, quand on se voit, on ne parle que de travail. Lui, il habite Angoulême déjà, moi Paris, donc les rares fois où on se voit pour l'émission, très peu de temps, on est passionné par notre travail, qui, en fait, notre travail, c'est aussi de rencontrer des gens, de raconter des histoires. On est vraiment des gros bosseurs, quoi. Et toute la journée, on réfléchit, on a des idées de sketch, mais aussi à la vie, justement, en lisant les journaux le matin, on s'appelle, des fois, on parle politique, actualité. On est vraiment sur le qui-vive tout le temps, ce qui fait qu'aussi, on dort mal.
Regarde cette plume, de là-bas. Elle est visqueuse. Parce que le mâle secrète une matière grasse et puante qui attire la femelle dans ses filets. La nature. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile.
1992 connaît deux événements médiatiques majeurs, la naissance de Groland et la sortie du film C'est arrivé près de chez vous.
Je savais pas que c'était concomitant.
Mais oui, le film de fin d'études de Rémy Bellevaux, écrit avec André Bonzel et Benoît Poulvorde. C'est ce dernier qu'on vient d'entendre réciter la citation que vous avez choisie pour l'émission Gustave Carverne. Mm-hmm. Une citation qu'il improvise pendant une scène de fusillade. Pourquoi avoir choisi ce poème improvisé par Poulvorde?
Bah ça me fait, là j'en rigole encore, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec The Big Lebowski. En général, quand on arrive à rire toujours en revoyant des scènes et tout ça, c'est que vraiment, pour moi, c'est culte, parce que en général on rit une fois et puis on rit plus. Et là j'ai réécouté encore ça et je rigole encore parce que je le vois. Souvent je regarde des extraits sur YouTube de C'est arrivé près de chez vous, ça me plaît de le revoir. Et puis Benoît, Poulvorde, je sais pas, c'est un mec qui me fait toujours rire encore maintenant.
Là, c'est le premier film de Poulvorde, C'est arrivé près de chez vous. Il paraît que la première chose que vous ayez tournée dans votre vie avec de l'épine, c'est un plan de Poulvorde de dos qui parle à son fils pendant une course de cyclocross dans Altra. Ouais. Et ça a fait hurler votre producteur.
Bah oui, parce que on avait la chance, c'était un film fauché, hein, personne n'était payé, on était neuf dans une camionnette, c'était un road movie en chaise roulante de deux handicapés qui allaient de Picardie en Finlande, et il se trouve qu'on s'est arrêté donc à Namur chez Benoît pour tourner une scène, et on l'a mis de dos, donc on voyait que son cul à l'écran, et le producteur disait, mais attendez, vous avez la chance d'avoir Benoît Poulvorde. Et nous, ça nous faisait rire de parce que sa voix est tellement caractéristique. Et il se trouve que, bon, ça c'est les Belges, ils sont géniaux. Deux années après, Benoît reçoit une espèce de colis, et je la fais courte, mais il avait reçu, enfin, un collectif belge lui avait envoyé un prix comme meilleur acteur de dos. Donc voilà, non, mais ça fait partie de ce qu'on aime bien, ce sont des pieds de nez.
Eh ben, on va parler d'autres pieds de nez et d'autres francs-tireurs que vous avez dirigés dans quelques instants, Gustave Carverne, juste après Sit Around and Miss You des Black Keys dans la playlist France Inter.
I'm not afraid to die.
remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Gustave Kervern. Vous avez choisi pour l'émission des bandes dessinées de Daniel Goussens, qui est autodidacte, qui a débuté sa carrière dans Pionnier Pilote avant de rejoindre Fluide Glaciale en 77, et qui est également chercheur en intelligence artificielle. Il a une œuvre magistrale et absurde. Vous l'avez découvert comment, Gustave Kervern?
Moi, j'étais assez solitaire comme enfant, parce que... je venais de l'île Maurice, j'étais à Nice, puis même de tempérament. Moi, l'ouverture à l'humour venant de l'île Maurice déjà était très tardive. Et puis, donc, je me faisais mon truc tout seul. Et c'est pour ça que j'ai commencé par acheter Fluide Glaciale. Et c'est en découvrant Goussens dans Fluide Glaciale que je suis. Il y avait tous les dessinateurs à peu près. Je les aimais énormément, hein, mais. Mais Goussens, c'est vraiment quelqu'un de très particulier. C'est vraiment de l'absurde qui va vers le surréalisme. C'est totalement. Enfin, c'est ce que j'adore. Moi, j'adore l'absurde, et lui, c'est le maître de l'absurde en bande dessinée. Donc, avec un dessin aussi très très, enfin, génial, avec des situations géniales. Ça passe du coq à l'âne. Ça n'a où. Enfin. Non, c'est vraiment tout ce que j'adore.
En octobre sort chez Fluide Glaciale justement Goussens, appellation Goussens, contrôler les grands crus classés de Fluide Glaciale. Et c'est vrai que c'est les planches les plus aimées par des dessinateurs de bandes dessinées. Celui-ci dit, il y a aussi Benoît Poulvord dedans. Ouais. Et j'ai éclaté de rire sur deux planches où il y a un personnage qui se déguise en Bernadette Soubirous pour faire une blague à la Sainte Vierge. Et une autre où il y a des cow-boys par terre dans tous leurs états parce que les Indiens leur ont fait un guet-apens pour leur faire des mises en plis.
Ah oui, non, mais c'est là, il faut vraiment pas être cartésien, mais c'est ce que, nous on est vraiment pas cartésien, donc malheureusement ce monde le devient de plus en plus, mais c'est pour ça il faut vraiment avoir un esprit un peu tordu pour aimer, mais enfin bon, ça fait partie de l'humour que j'adore.
On va découvrir, Gustave Kervern, vos choix musicaux. Le premier est signé d'un duo que vous avez transformé en tenancier de restaurant La Pataterie dans Le Grand Soir.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz d'un appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la.
1973, c'est normal, de Brigitte Fontaine et Ariski Belkacem. C'est de l'humour noir encore, Gustave.
Ah bah oui,
Kervern.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui se passe dans cette chanson?
C'est un immeuble qui brûle et ils sont dedans. Et donc ça a été fait avec des matériaux vraiment de mauvaise qualité. Donc sur une musique assez gaie, en fait, ça balance des trucs sur les promoteurs immobiliers.
Alors qu'ils vont mourir, ils n'ont pas l'air de s'en inquiéter
non,
plus que
voilà,
ça.
Non, voilà, c'est une belle philosophie en plus.
Je crois que vous avez un projet là qui va sortir en 2020 avec Brigitte Fontaine, justement.
Oui, Brigitte, donc on l'a. Elle est venue tourner un petit rôle dans Le Grand Soir, donc avec Poulvord et Dupontel. Et effectivement, on est tombé amoureux de Brigitte, mais je pense que c'est une artiste qui est pas assez connue et pas assez vénérée en France. Et nous, comme on la vénère, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose avec elle. Et on a fait un espèce de court-métrage, mais qui dure 35 minutes en super 8, parce que on est amoureux des images et de la qualité de l'image, donc en super 8, ce qui est pas évident. Et on est parti avec elle à Morlaix. Elle est originaire de Morlaix. On voulait faire une ode à la Bretagne, puisque je suis d'origine bretonne. Et nous, on a une passion avec Benoît pour les calvaires bretons. Alors, je ne comprends pas. Enfin, si vous avez ne serait-ce qu'un week-end, je dis ça aux auditeurs, aller faire la tournée des calvaires bretons. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau en France. Enfin, c'est magnifique, c'est émouvant. Il y a personne, donc on se retrouve tout seul dans des endroits magnifiques avec des personnages taillés dans la pierre. Enfin voilà. Et donc on a voulu mettre ça dans un court-métrage. Donc on a fait ce court-métrage avec elle, qui sera visible sur France 2, Canal+ bientôt, et peut-être dans un certain cinéma.
Avec un concert.
Avec un concert de Brigitte en plus, si c'est jouable, on est en train de mettre ça sur pied.
On va écouter maintenant votre autre antidote musical, Gustave Kervern. C'est un morceau de 68, c'est Jumping Jack Flash des Rolling Stones. Juste avant qu'on l'écoute, qu'est-ce qui vous évoque ce morceau?
Il m'évoque aussi Scorsese, parce que Scorsese a utilisé les morceaux des Stones comme personne d'autre ne l'a fait. Et pour moi, ça fait partie. Enfin, Scorsese et les Stones, pour moi, je dansais beau quand je dansais, parce que je dansais très peu dans les boîtes de nuit, mais dès qu'il y avait un morceau des Rolling Stones, je dansais et j'imite assez bien Mick Jagger en train de danser, donc c'était un peu mon moment de gloire. Non, je sais pas, enfin, j'ai toujours aimé les Stones, j'ai toujours aimé Scorsese, donc voilà, c'est Jumping Jack Flash
des Rolling Stones. Remède à la mélancolie sur France Inter avec Gustave Kervern et Salvador Dali.
D'après les toutes dernières investigations d'informations holographiques, il se pourrait que, d'après la thèse réellement sublime du docteur Larcher, l'enfant Jésus ne serait qu'un enfant jumeau que la Vierge porterait dans son flanc comme un bourgeon. C'est pour ça qu'il n'aurait pas eu de naissance vaginale, mais par parthénogenèse.
Dali, en 1972.
C'est génial de le réentendre.
Ouais, il est dans Télémidi, il est face à Daniel Gilbert quand il dit ça.
Ouais, quand même.
C'est pour introduire le tableau que vous avez choisi, Gustave Kervern, c'est la girafe en feu, peint par Dali vers 1936, lors de son exil durant la guerre civile espagnole. Comment vous avez connu ce tableau? Après, on va parler d'Avida, parce que c'est un hommage à Dali, l'un de vos films. Mais comment vous avez connu ce tableau?
Bon, en fait, moi, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que ce sont les gens qui m'intéressent souvent au départ plus que leur œuvre. C'est-à-dire, je prends par exemple Coris Maki, le réalisateur finlandais. Je l'avais vu dans beaucoup d'interviews, mais j'avais jamais vu vraiment de ses films. Mais ses interviews étaient tellement hallucinantes parce qu'il était souvent totalement ivre. que je me suis dit, tiens, ce personnage est extraordinaire, et là, j'ai vu ses films. Et pour Dalí, c'est pareil. Je connaissais bien sûr des tableaux, mais j'étais pas vraiment fan de sa peinture. Et c'est en travaillant sur ce film, La Vida, qu'on a fait, qui est en référence un peu à Dalí, que je me suis mis vraiment à regarder ses peintures de plus près, et surtout à étudier sa biographie. Je me suis dit, bon, on savait que c'était un génie, mais commençant évidemment à 12 ans à peindre, etc., etc. Mais et surtout, j'ai appris enfin à regarder ces tableaux en fait. Et les girafes en feu, bon, c'était pas spécial. Enfin, c'était plutôt que ça servait le film, parce que dans le film, on était dans un zoo, donc il y avait des girafes. Donc en voyant ce tableau, je me suis dit tiens, ça va bien avec le film. C'est plutôt le contraire qui s'est passé, quand on voit en fait on voit des reproductions, mais quand on voit vraiment en vrai un tableau de Dalí, on ne peut que s'incliner, parce qu'il y a, c'est d'une minutie, alors qu'il c'était un personnage totalement délirant et tout ça, mais il y a une minutie et un travail dans ces tableaux qui est totalement hallucinante, quoi. Et puis surtout, voilà, en l'écoutant là parler, je me dis, il y a beaucoup de normes, bien sûr, dans les produits maintenant, mais il y a aussi beaucoup de normes dans les artistes. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît le plus, et c'est pour ça qu'on a pris des Dupontel, des Depardieu, des Brigitte Fontaine, des Houellebecq, ce sont des gens qui, enfin, on peut s'attendre à tout avec eux, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a des très très bons acteurs en France, là, même 90% des acteurs sont bons, mais ce qu'on aime bien chez les acteurs et chez les gens en général, ce sont des failles, des dingueries, qui soient hors normes, et malheureusement, c'est comme dans tout, y en a de moins en moins, donc... Voilà, en réécoutant Dalí parler, je me dis mais est-ce qu'il y a encore un mec comme ça qui est capable de dire enfin des choses hallucinantes comme ça en étant un artiste incroyable. Enfin voilà, donc c'est merci de me l'avoir fait réécouter, ça fait du bien quoi. Moi ça me fait du bien d'entendre des gars comme ça.
Avida, Gustave Carverne, c'est l'anagramme Avida Dollars, l'anagramme de Salvador Dalí. C'est comme ça que s'appelle l'un des films les plus surréalistes, d'ailleurs, dans votre filmographie que vous avez tourné.
Les moins vus par le public. Mais ça, on s'y attendait. On n'avait pas fait le film pour ça. Ça qui est bien aussi, c'est que on est relativement lucide aussi. On a fait ce film pour mettre plein de gens qu'on aimait aussi dans ce film, parce que c'est l'occasion aussi pour nous. Il y a Claude Chabrol qui est... Et aussi de parler de peinture, parce que moi et Benoît, on est la peinture pour nous, c'est quasiment, je sais pas, mais par exemple quand alors le remède à la mélancolie, c'est je vais par exemple au Louvre ou au musée d'Orsay de temps en temps, je me ressource d'une manière extraordinaire. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que de passer de salle en salle, de s'attarder sur des tableaux, parce qu'en général c'est tellement grand qu'on donc je fais une salle à fond, deux salles dans lesquelles je suis passé très vite, et je peux vous assurer, enfin je sais que ça, c'est un des derniers refuges d'ailleurs, c'est pour ça que les expos attirent autant de monde, c'est que la peinture c'est encore un des derniers endroits où la folie peut sinon en télé on peut plus être fou, même au cinéma enfin on peut l'être encore, mais pour attirer un grand public, ça, c'est difficile. Donc la peinture, c'est le dernier endroit où on peut mettre tout ce qu'on a de plus dingue. Donc c'est pour ça que ça marche.
Gustave Carverne, quand je vous entends parler, je vois partout une nostalgie.
Oui, enfin oui.
Enfin, non, comme si vous contempliez la décadence d'un monde où on avait beaucoup de liberté, où on pouvait laisser libre cours à sa fantaisie, à sa folie, et qu'aujourd'hui tout est lissé.
Oui, bah ça, je suis pas. Enfin, je pense que justement, en étant à peu près lucide, on s'aperçoit de ça sans problème. C'était pas une question de dire c'était mieux avant. Non, enfin, moi, je m'en fous de ça, mais en tout cas, il y avait effectivement plus de liberté, plus de gens un peu
qui étaient
hors normes. C'est devenu des industries, le fric a gâché beaucoup de choses, même on a peur, mais même nous, hein, même moi, Benoît, on a un loyer à payer, on part plus à l'aventure, on l'a fait au début, mais bien sûr, après on s'est calmé, mais je veux dire, maintenant les gens sont calmes tout de suite, quoi, donc... Ouais. Voilà, je regrette un peu ça, quoi.
Mais il faut que les choses qu'on crée soient rentables tout de suite. Il y a plus la période où on peut chercher. Et...
Voilà. Et puis, même quand on propose un scénario, on rabote dans, on arrondit les angles. Enfin, voilà, c'est plus difficile de créer des choses folles.
Vite, un remède à la mélancolie.
Pour pouvoir suivre la deuxième mi-temps, Bartomic a dû s'abonner en catastrophe à SFR, qui a raflé les droits du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. 22h15, Bartomic a zappé et regarde la suite du match sur son frigo, car c'est Whirlpool qui a pu acheter les droits du deuxième quart d'heure de la deuxième mi-temps. Toujours pas de but, Bartomic est embêté. Pour voir le dernier quart d'heure du match, il doit se dépêcher. Ouf, il a trouvé quelqu'un qui a une montre connectée. Car c'est Grogel qui a acheté les droits du dernier quart d'heure du Classico. Pénalty pour Grosville. Oui, mais hélas, impossible de voir les pénaltys. Parce que les pénaltys, ils ont été achetés par Vincent Grosloré.
En 1920.
Non, mais c'est ma vie, ça, en plus, parce que moi, je suis fan de foot.
Mais je sais, justement, ouais. On va en parler. En 1927, soit 10 ans avant la première véritable retransmission d'un match à la télévision, un certain Ernest Chamon prophétise que le football sera à terme le plus grand spectacle télévisé. Là, on vient d'entendre l'extrait d'un sketch grolandais du 28 mai 2016 que vous avez écrit, oui. Gustave Carverne, Les droits du football. Vous aimez regarder le football à la télé. Vers 12 ans, vous vous imaginiez footballeur?
Bah oui. C'était en général, on demande ça aux enfants qui n'ont aucune idée, mais comme il faut répondre quelque chose.
Bah vous, prêtre ou footballeur, c'est assez précis.
Oui, mais prêtre, c'était pour failloter, c'était en cours de religion, enfin de, je sais plus comment on dit, mais catéchisme. Et puis, à part ça, je suis un des rares croyants, même le seul croyant de Groland. Hein, donc, ça c'est une autre question. Mais footballeur, j'adore le foot plus que jamais. Mais effectivement, j'ai tous les abonnements de foot parce qu'effectivement, pour regarder le maximum de matchs, on est obligé. Mais c'est comme vous verrez dans le film qu'on a fait avec Benoît et Facile Historique l'année prochaine. On parle aussi de ceux qui sont addicts aux séries et effectivement, là, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que déjà, c'est hyper chronophage, comment regarder tout, mais en plus, il faut s'abonner à 18 plateformes différentes. Enfin, ça devient un monde de fous, avec très peu de temps à partager, avec de plus en plus de choses à regarder.
Mais la décadence.
Il y a de quoi devenir dingue.
Et Gustave Carverne, vous essayez de monter une émission sur le football, je crois, depuis plusieurs années, mais vous dites que ça n'intéresse pas Canal.
Non, j'ai essayé. Il y a Grégoire Luding, qui est un copain que j'ai rencontré sur un tournage, qui adore le foot aussi, qui fait partie du Palmachot, et on a un projet, on essaye, mais non, parce que le foot, c'est tellement maintenant en sérieux, parce qu'il y a des millions en jeu, que les mecs, ils ont pas du tout envie de déconner autour du foot. Donc, pour proposer une émission vraiment très caricaturale et tout ça, ça reste pour l'instant impossible. À part en Angleterre. Ils ont un peu plus de recul.
Gustave Carverne, j'ai lu que vous aimiez regarder le foot tout seul chez vous, c'est-à-dire pas en bande. Il y a beaucoup de gens qui regardent le foot en bande. Vous avez besoin d'être concentré.
Mais oui, parce que ça, je rigole pas. Moi, le foot, c'est sérieux, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est mon côté solitaire aussi. Hein, mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien me concentrer sur un match et le regarder tranquille, quoi.
Vous n'allez jamais au stade?
Non, j'y vais pas parce que. Je sais pas, non, mais j'y allais beaucoup quand j'étais jeune. Moi, j'étais à Nice, j'allais voir l'OGC Nice tout le temps. Mais après, vous savez, après, moi, je suis comme une chèvre autour de chez moi. Hein, j'ai 50 mètres de corde et je ne bouge plus. J'ai à peu près un petit tour du quartier, puis je rentre. C'est ça, vous verrez quand vous serez arrivé à 57 ans, vous aurez la même corde autour du cou que j'ai en ce moment. Non, mais je rigole. Mais
c'est réjouissant.
Mais c'est ça, c'est la mélancolie.
Non, je suis sûre.
Hein.
Oui, vous êtes vraiment fait pour cette émission, Gustave Carverne.
Ah, mais je suis carrément, mais votre meilleur invité depuis.
Bah, revenez la semaine prochaine.
Bah, je peux revenir toutes les semaines. Hein. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet.
Prochain invité, Gustave Carverne. Oui. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci à vous. Non, mais c'est un thème vraiment inépuisable.
On attend donc votre moyen métrage écrit avec Benoît Delépine et Brigitte Fontaine qui sera diffusé sur France 2 et Canal+, et partagé de temps en temps avec un concert de Brigitte Fontaine dans des salles de cinéma. Le prochain film, c'est Effacer l'historique, il sortira en salle courant 2020.
Ouais.
Groland, Le Zapoy, c'est chaque samedi à 20h30 sur Canal+. Chers auditeurs, La musique qu'on a passée dans l'émission Les Remèdes sont sur le site. J'espère que votre humeur est à l'opposé de celle d'un chips dépressif. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.